11h sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et aujourd'hui, avec moi en studio, j'ai le plaisir d'avoir une invitée. Bonjour Manon.
Bonjour.
Alors Manon, tu es venue aujourd'hui nous proposer une chronique et je crois que tu souhaitais nous parler du harcèlement.
Oui, c'est ça. Alors le harcèlement, en fait, ça se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Et c'est plus au niveau primaire, collège et lycée que ça se produit. Et généralement, c'est un groupe d'élèves ou un seul élève qui fait des insultes, des agressions sur une élève différente, par exemple, qui lui répète « t'es moche, t'es grosse » ou par exemple, c'est sur la couleur de peau, le sexe, ça peut être la religion, ça peut être parce qu'elle a les cheveux teintés, parce qu'elle aime lire, parce qu'elle aime être seule, elle n'a pas d'amis. En fait, le harcèlement, c'est beaucoup, beaucoup de choses et c'est très, très large. Il y a par exemple beaucoup de types de harcèlement. Il y a le harcèlement de rue, sexuel, professionnel et scolaire. Et celui qu'on voit le plus souvent, c'est le harcèlement scolaire et sexuel. Par exemple, pour le harcèlement sexuel, ça peut être des attouchements, des choses qu'on ne veut pas, par exemple le viol. Ça peut être un harcèlement parce qu'il peut être répété. Il peut être répété toute la journée et tout, ou tous les jours. T'as aussi le harcèlement de rue, il y a les sifflements, les interpellations répétées. Et en fait, le harcèlement, c'est pas qu'une chose, c'est plusieurs choses ensemble réunies qui fait que la personne va être renfermée sur elle-même, isolée, dépressive et qui va conduire souvent au suicide. Et après, c'est les familles qui généralement, il y a des conséquences après le suicide. Par exemple, la mère qui devient alcoolique, le père qui est dépressif aussi et qui veut devenir comme ça va, c'est-à-dire alcoolique. Et à la fin, ils meurent soit d'un cancer ou soit parce qu'ils ont trop bu. Par exemple, il y a des fois, ils peuvent être heureux que leur fille soit morte. Mais généralement, ça touche la famille. Et après, il y a plein de conséquences après le harcèlement, le suicide et tout. Et généralement, les personnes ne s'en rendent pas compte parce que pour eux, c'est juste un jeu d'enfant. Et c'est pas normal, quoi. Je trouve que c'est pas normal aujourd'hui de pas beaucoup en parler et que les gens, en fait, disent que c'est un jeu d'enfant alors que pas du tout, c'est super important et j'avais envie d'en parler à la radio. Oui, parce qu'on peut être emprisonné, il y a 2 ans, on peut avoir 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. On peut avoir juste une amende ou on peut aller en prison. Non, c'est ça le respect. En fait, on doit respecter les autres si on veut être respecté nous-mêmes, en fait. Et généralement, ces personnes ne respectent pas cette règle. Et souvent, ça... je sais pas comment expliquer, mais ça touche un peu les personnes, ça fait qu'ils sentent mal dans leur corps, ils ont moins confiance en eux et souvent ils ont du mal à en parler à leurs parents ou à un adulte parce que c'est pas facile à dire qu'on se fait harceler et tout.
Ce que tu expliques aussi, c'est alors quand quelqu'un est victime de harcèlement, c'est pas facile d'en parler parce qu'on a peur, soit de se faire encore plus harceler. Ou alors on a honte aussi de raconter qu'on s'est fait insulter ou moquer ou...
Non, je trouve que c'est pas une honte de dire, de se faire harceler parce que c'est pas normal, c'est pas une honte en fait, c'est pas une honte en fait de le dire qu'on se fait harceler. C'est plus une honte pour le harceleur de dire, j'ai harcelé quelqu'un, mais parce que je suis jalouse d'elle, parce qu'elle est différente et tout, c'est plus le harceleur qui devrait avoir honte en fait, pas la victime.
Alors ce que tu dis là aussi, c'est que finalement les personnes qui vont harceler d'autres personnes, déjà elles choisissent, elles repèrent en fait qui elles vont harceler. Donc une personne qui est différente, qui est seule, qui est peut-être un peu à l'écart du groupe, vont choisir quelqu'un de précis. Et c'est peut-être parce que c'est des gens qui eux-mêmes n'ont pas confiance en eux.
Oui, aussi. Il y a par exemple des personnes qui peuvent être battues dans leur entourage, qui peuvent être insultées dans leur entourage et qui peuvent subir ce qui est subi à la victime. Oui, c'est possible. Mais dans ces cas-là, il faut que la harceleur en parle. Parce que s'il n'en parle pas, en fait, il transmet sa colère, sa haine, sa tristesse à une autre personne. Et souvent, c'est pas la meilleure façon, en fait. La meilleure façon, c'est d'en parler. Et peut-être pas à ses amis, peut-être pas à ses parents ou à des adultes du collège, mais à un professionnel, par exemple, ça pourrait lui faire du bien d'en parler et ça résoudrait ses problèmes. Parce qu'en fait, il transmet ses problèmes à la victime. Et souvent, après, la victime, c'est elle qui subit, c'est elle qui se renferme sur elle-même, c'est elle qui devient dépressive, et souvent c'est elle qui se suicide. Donc si le harceleur subit ces choses-là, qu'il n'a pas confiance en eux, franchement, faut qu'il en parle, parce que sinon, faut pas qu'il subisse, comment expliquer, tout ce qu'il ressent, en fait, faut pas qu'il les transmette à quelqu'un d'autre, parce que sinon, il va jamais aller mieux, il aura jamais confiance en lui, et la victime non plus.
Ça va faire comme une chaîne alors ?
Oui, ça va continuer jusqu'au bout. Et en fait, c'est une chaîne qui continue sans fin.
Et donc, ce que tu dis aussi, c'est que quand un enfant ou un jeune, ou quelqu'un en tout cas, va mal, sa douleur, elle rayonne autour d'elle. Ça impacte les autres personnes qui l'entourent.
Pas forcément, parce qu'après, il peut aussi ressentir une douleur, mais il peut certes ne pas la montrer, en fait. Dire que tout va bien, faire un faux sourire, c'est pas forcément qu'il a une douleur et que tout le monde le sache. Parce que ça se trouve, il a une douleur, mais il le montre pas à ses amis, pas à sa famille. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il en parle, en fait. Que certes, les gens, il y a des personnes qui vont montrer leur douleur et que son entourage va le voir, mais il y a d'autres personnes qui montrent pas leur douleur et du coup, là, ils le voient pas qu'ils vont mal. Que son ami va mal, et souvent c'est ça le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, les lycéens, les collégiens et les primaires, ceux qui ressentent cette douleur, en fait, ils la montrent pas. Et c'est ça l'inconvénient, en fait. C'est qu'il faut qu'ils le montrent, qu'ils en parlent pour aller mieux, et qu'ils reprennent confiance en eux.
Mais pourquoi ils le montrent pas, alors ?
Bah, tout simplement parce qu'ils ont pas... Ils ont peut-être pas envie que les autres personnes s'inquiètent pour eux, qu'ils aient de la pitié et qu'ils aient tous des regards vers lui. C'est pas forcément une honte de montrer sa douleur. Moi, je trouve pas que c'est une honte. Je trouve que c'est important de montrer qu'on va pas bien et il faut en parler. Souvent, la personne ne montre pas pour pas que ses amis s'inquiètent, pour pas que son entourage soit tout le temps sur lui, que les personnes lui disent « ouais, mais faut que t'en parles » et tout ça, qu'il le pousse pas, qu'il le force pas. Et souvent, c'est ça la personne qu'elle veut pas. Qu'on le force à aller en parler, qu'il ait de la pitié, des regards et tout.
Ce que tu dis aussi, Manon, c'est que quand on est harcelé, donc c'est des insultes, des moqueries qui se répètent, donc ça harcèlement parce que c'est répété tout le temps. Mais ce que tu expliques, c'est qu'en fait, ça fait mal à l'intérieur, plutôt. S'il n'y a pas forcément des coups, il n'y a pas forcément des blessures physiques, mais que ça fait surtout mal à l'intérieur.
Oui, plus psychologique, mais il y a aussi le harcèlement où il y a des physiques, où il y a des douleurs et tout. Il y a des douleurs, il y a le harcèlement mental où il y a des insultes et tout. Mais c'est plus psychologique parce que la personne, elle reçoit toutes ces insultes et du coup, ça la renferme sur elle-même. Les douleurs sont, oui, certes, à l'intérieur, mais il y a aussi des douleurs physiques. Elle va avoir des bleus et tout. Mais ce qui est le plus marqué, c'est les douleurs psychologiques.
Parce qu'elle ne se voit pas ?
Oui, certes, elle ne se voit pas, mais aussi parce que la victime ne les montre pas.
Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? En parler ?
Oui, certes, en parler, aller dans des centres. Par exemple, il y a chez Utour, l'hôpital Bretonneau et l'hôpital de Clocheville, où il y a un centre pour des personnes qui se font harceler et qu'il faut qu'ils en parlent. Sinon, il faut qu'ils appellent le 30-20, où c'est une association non aux harcèlements et qu'il faut qu'ils en parlent. C'est important d'en parler parce que sinon, il faut pas qu'ils aient peur après que le harcèlement continue parce que s'ils en parlent, le harcèlement va tout de suite arrêter. Il y aura toujours un professionnel qui arrêtera le harcèlement. Du coup, il faut pas qu'ils aient peur d'en parler. Au contraire, faut qu'ils en parlent. Qu'ils en peut-être pas à leurs parents, mais sûrement qu'un professionnel ou un adulte qu'ils ne connaissent pas forcément. Peut-être pas à leurs amis, mais parce que leurs amis ne certes savent peut-être pas, ni leurs parents. Mais ouais, par exemple, un surveillant ou un professeur du collège ou du lycée, qu'ils en parlent, parce que sinon ça ne s'arrêtera jamais.
Voilà, donc rappelez que on est victime de harcèlement. Donc déjà la loi protège les gens de ça et d'aller chercher de l'aide. Qu'est-ce que tu aimerais proposer par exemple dans un lycée ou dans un collège? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer, mettre en place pour lutter contre le harcèlement?
Ben, on pourrait créer une association, peut-être pas une association, mais un groupe de parole pour les personnes qui se font harceler ou qui se sont fait harceler. Et comme ça, après, ils vont du monde qui ont subi ben, ce cas-là et pourront parler.
Donc c'est ça que tu proposerais à des chefs d'établissement, par exemple, de faire un
Oui,
groupe.
de faire un groupe de parole pour les personnes harcelées. Ou du soutien pour les personnes qui sont harcelées.
Je crois que tu as apporté une musique avec toi, qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est la musique Petite Émilie de Kinvey.
Pourquoi tu as envie de nous faire écouter cette
Parce
musique?
qu'en fait, à travers cette musique, Kinvey fait passer une petite fille qui est victime de harcèlement au collège et qui à la fin se suicide.
Alors, on écoute Petite Émilie sur Radio Campus Tours.
Petite Émilie, 6 ans et demi, et l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'on sorcelle. Pour toute sa mère, elle en était la prunelle. Ne pouvait pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue plus que fusionnelle. Rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie. Car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Petite Émilie, à 12 ans maintenant. Adolescente enfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant. C'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée. Tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souffre-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux ils l'appelaient la dégueulasse. Des photos d'elle tournées aux enfants qui dépassent, ne sachant pas comment faire, ni comment réagir à cet enfer. Par honte et ne
Vous venez d'écouter Kev Inve, pardon. Heureusement que Manon est là pour m'indiquer, c'est le nom de l'artiste, que je ne me trompe pas. C'était Petite Émilie. Justement, Manon, tu avais envie de nous préciser des choses.
Alors, il faut savoir aussi qu'il y a le harcèlement physique, dont j'en ai pas parlé. Et c'est-à-dire qu'on peut, la personne espionne la victime, elle la poursuit, elle l'appelle tous les jours, toute la semaine, elle la menace. Il y a aussi des comportements victimes envers la victime. Et aussi le harcèlement scolaire, il y a des conséquences, c'est-à-dire la phobie scolaire, la dépression, la nervosité, l'anxiété, l'isolement. Et le suicide, dont j'en ai beaucoup parlé. Et il faut en parler parce que la personne qui vous harcèle ou qui vous suit partout, parce qu'il y a le harcèlement de rue, peut être suivi, il y a des sifflements et des interpellations. Il faut en parler parce que comme ça, la personne aura 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Ou si elle continue... Par exemple, il y a des circonstances aggravantes, et bah, elle peut aller à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et aussi, si la personne a eu des complices, elle peut aller à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et il y a aussi le harcèlement qui est le plus répandu sur les réseaux sociaux, c'est le cyberharcèlement, qui consiste à avoir des menaces, des photos pas très... des photos assez intimes de la victime. Et souvent, c'est les ados qui utilisent le plus souvent ce harcèlement qui est le plus répandu. Parce qu'ils préfèrent... Les adolescents sont plus sur les réseaux sociaux. Et par exemple, il y a des fausses rumeurs, des photos donc, publiques qui sont assez intimes. Il y a des menaces, des insultes. Et il y a aussi des faux profils pour espionner leurs victimes, être amis avec eux et récolter tous ces secrets.
Ce que tu expliques, c'est qu'il faut aussi être attentif à ce qu'on met en ligne sur les réseaux sociaux.
Oui. Qu'il ne faut pas mettre de photos assez intimes, pas mettre toute sa vie et tout. Il faut être raisonnable.
Et même être sûr de qui on ajoute comme ami.
Oui, il faut rajouter surtout sa famille et les familles auxquelles on a... les personnes auxquelles on a le plus confiance.
Parce que des fois, on a envie d'avoir plein d'amis sur les réseaux sociaux.
Oui, mais des fois, c'est pas la meilleure solution. Parce que des fois, tu peux ajouter des personnes que tu connais pas et ces personnes peuvent être tes harceleurs sous un faux compte et qui peuvent récolter pas mal de renseignements secrets sur toi.
Ouais, donc, ce que tu expliques aussi, Manon, c'est l'idée des photos. Donc, voler ou prendre une photo gênante, disons, ou en tout cas... intime, très personnel d'une personne et de la mettre sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que ça peut être partagé.
Oui.
Pas à l'infini, mais presque, en fait.
Oui, tout le monde peut l'avoir.
Donc c'est difficile à arrêter, en plus.
Oui, et souvent, on peut avoir... la victime peut porter plainte pour ça. Parce que c'est l'usurpation de la vie privée.
Que tu avais repéré des assos peut-être dont tu voulais
nous parler. Oui, j'ai repéré des associations. Il y a le centre de vie de Sanitas à Tours. Il y a le centre d'accueil des victimes d'agressions sexuelles CAVAS, qui est un accompagnement pour les personnes victimes d'agressions sexuelles. Il y a l'Institut médico-légal, qui est sûrement à Tours aussi. Il y a le mouvement français pour le planning familial MFPF, qui est à Tours. Et il y a le centre-vie du Sanitas, dont j'ai parlé, qui est à Tours.
Donc ça, ouais. C'est des endroits où les gens peuvent venir parler.
Oui, qui peuvent parler, pas forcément de tout, mais qui peuvent parler assez ouvertement et qui peuvent être accompagnés. Et là-bas, ils seront aidés.
Alors, ils seront aidés, et je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces endroits-là, la plupart sont gratuits.
Oui, ils sont gratuits, et ce qui est bien, c'est qu'ils n'en parleront pas à leurs parents, aux parents, c'est secret médical.
Donc ça, c'est intéressant aussi, peut-être pour les mineurs, de dire, bah là,
oui.
C'est gratuit, on peut venir être écouté sans jugement.
Mais les personnes ne jugeront pas, parce que c'est ça leur métier, de les écouter, de les aider, de ne pas juger.
Eh bien, merci Manon pour toutes ces informations sur le harcèlement et ses ressources pour aller chercher de l'aide. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ?
Non, j'ai tout dit.
En ces temps de confinement, est-ce qu'il y a un film que tu aimes beaucoup, un livre que tu aimes beaucoup, que tu aimerais recommander à nos auditeurs ?
En ce moment, je lis Harry Potter, que j'aime beaucoup et je les conseille aux personnes si elles ne l'ont pas vu.
Voilà, donc c'est en film et c'est en livre aussi.
Oui, c'est fantastique.
Merci Manon.
De rien.
Oui, ça s'appelle l'automutilation. Tu sais, cette chose dont tu as honte quand tu prononces son nom. Y'a pas de loi, y'a pas de règles dans son jeu, de toute façon. Il suffit de se détester, tu connais la chanson. Ça part de rien, tu sors des coups, le cœur bien abîmé. Et dans ta tête, c'est la guerre, les problèmes font qu'empirer. Mais t'y penses pas, t'as pas le choix, parce que personne n'est là. Et puis tu craques, tu fonds en larmes, et tu regardes tes bras. Seul dans ta chambre, assise dans le noir, tu ne cesses de pleurer. Tu penses à tout ce qu'on t'a fait depuis que t'es arrivé. T'as juste envie de tout virer et de tout balancer. Mais prise au piège dans cet enfer, c'est toi que tu vas briser. Alors tu prends cette putain d'âme et tu traces le premier trait. Ça te fait mal mais tu t'en fous car tu te sens soulagé. À quoi ça sert de prier pour ces gens et de se mettre à genoux? Car ton cœur souffre mais c'est ton corps qui prend tous les coups. Tu penses que personne ne comprend ce que tu vis vraiment. Alors tu prends celle qui remplace tes cris. Oui, c'est ta meilleure amie. Quand personne ne t'entend hurler à chaque instant, tu prends celle qui compte tes envies. Oui, c'est ta meilleure amie. Continuera tous les jours. Tu te prépares psychologiquement avant d'aller en cours. La peau qui brûle, les yeux qui piquent, la nuit a été dure. Tu caches dans ton armoire ton instrument de torture. Tu te maquilles, effaces tes cernes pour paraître bien. Tu mets la dose de produit pour courir ton chagrin. Et face à la glace, tu t'entraînes à faire ton plus beau sourire, pour que personne ne se doute que t'as juste envie de mourir. Tu sors de ton placard le seul pull, la manche longue que t'as. Tu dis des conneries à tes amis quand ils demandent pourquoi. La plupart du temps tu réponds que tu as beaucoup trop froid, et que les blessures sur tes poignets proviennent de ton chat. Mais merde, pourquoi tu t'infliges autant de violence? Mais bordel, laisse-toi encore une deuxième chance. On dirait que ton corps a subi la seconde guerre mondiale. Arrête de te couper, je t'en supplie, pose-moi cette lame. Tu penses que personne ne comprend ce que tu vis vraiment. Alors tu prends celle qui remplace tes cris. Oui, c'est ta meilleure amie. Quand personne ne t'entend hurler à chaque instant, tu prends celle qui compte tes envies. Oui, c'est ta meilleure amie. Sèche-moi tes larmes, écoute-moi, tu vois, tu n'es pas seule. Y'a tous ces gens autour de toi et tous ceux qui le veulent, qui peuvent t'aider, qui seront toujours là pour t'épauler. Alors laisse cette larme, ce n'est pas elle qui va te sauver. Tu penses que personne ne comprend ce que tu vis vraiment. Alors tu prends celle qui détruit ta vie et t'appelle sa meilleure amie. Tu dis que personne ne t'entend, détrompe-toi sincèrement. Tu as beaucoup de vrais amis, mais ce n'est pas elle ta meilleure amie. Tu penses que personne ne comprend. ta vie et t'appelles ça une meilleure amie. Tu dis que personne n'est en toi. Tu pour toi seul, tu as beaucoup de mes amis.
Du diable. Avez-vous déjà croisé le chemin du diable? Aussi improbable que ça puisse paraître, à défaut de le croiser en personne, vous pouvez croiser ses doigts. Les doigts du diable, c'est un étrange champignon que l'on croise en forêt, sur sol plutôt acide, et qui dans sa forme adulte ressemble à une étoile de mer, rouge, étendant ses cinq branches sur le sol. Tout droit venu d'Australie, Clatrus archeri, c'est son nom scientifique, s'est introduit en Europe au début du XXe siècle, sûrement suite à la venue des soldats australiens lors de la Première Guerre mondiale. Il est très reconnaissable par sa couleur rouge criarde de ses bras appelés gleba et par son odeur de cadavre en décomposition. Cette odeur lui permet d'ailleurs d'attirer les insectes nécrophages qui se posent sur lui et dispersent ses spores. Dans sa forme adulte, l'odeur que dégage ce champignon le rend tout simplement inconsommable. Cependant, lorsqu'il est jeune, encore sous forme d'œuf verdâtre, rien ne semble contre-indiquer sa consommation, bien qu'on ne connaisse pas son goût. Bien évidemment, ce n'est pas recommandé et il y a bien d'autres champignons comestibles pour laisser le diable en paix. Des spores et des cèpes.
Spores et des cèpes. Spores et cèpes.
L'ammonite des Césars.
Spores et cèpes.
Saviez-vous que la terre est bleue comme une orange et l'orange est orange comme une orange? Peut-être ne connaissez-vous pas ce champignon sous ce nom, mais sous celui de l'ammonite des Césars. Et même si là encore vous ne le connaissez pas, ce n'est pas si étonnant que ça, car l'orange est rare, extrêmement rare. Si rare d'ailleurs qu'on idéalise fortement ses qualités gustatives, qui sont certes loin d'être désagréables, mais qui ne sont pas non plus à tomber par terre. Amanita caesarea est une ammonite parfaitement comestible et très facilement reconnaissable, si bien qu'elle aurait été consommée par les Romains il y a près de 2000 ans, d'où son nom. Lorsqu'elle est jeune, elle forme une sorte d'œuf blanchâtre duquel se détache une couleur orangée sur le sommet. Plus tard, dans sa croissance, l'œuf craquelle et laisse place peu à peu à un chapeau orangé d'une petite dizaine de centimètres de diamètre. Cette reine des ammonites, que l'on ne trouvait que dans le sud de la France il y a encore quelques années, profite du réchauffement climatique et étend son territoire jusqu'en Île-de-France et en Bourgogne. Attention tout de même à ne pas la confondre avec l'ammonite safran, plus clair, ou l'ammonite tumouche, sa cousine hallucinogène et toxique.
Des spores et des cèpes.
Des
spores et des cèpes. Spores et cèpes. Spores.
T'es pas net, non?
Mais si, je suis très net.
T'es un peu à l'ouest, hein.
Mangez-moi, 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 ce serait l'ultime déclaration d'un psilocybe sémilancé à tas avant de passer à la casserole. Mais qui est au juste ce petit bonhomme tout gris au chapeau conique? Ce champignon que l'on trouve dans les prairies fertilisées par nos amis les moutons et les vaches est plein de surprises. Il est d'ailleurs très commun et se trouve dans toute l'Europe, à l'exception des pays les plus méridionaux, et il existe également en Amérique du Nord, d'Est en Ouest. Capable de prendre des formes très diverses en fonction de l'état de croissance de son mycélium, il serait également un excellent antifongique. Oui, vous avez bien entendu, le psilocybe sémilancéata, un champignon, permet de lutter contre l'invasion d'autres champignons. Il serait d'ailleurs particulièrement efficace contre les champignons parasites des plantes, simplement du fait de ses phénols, ou plus simplement des arômes qu'il dégage. Mieux encore, il est capable de lutter contre un staphylocoque doré résistant au traitement habituel, le SARM, sans qu'on sache d'ailleurs vraiment pourquoi ni comment il y arrive. Mais ce petit machin gris a aussi une particularité qui lui vaut d'être très connu. Malgré sa toute petite taille, il ne dépasse que très rarement les 2 cm de haut, il est un puissant hallucinogène. La psilocybine, à l'origine de ses effets plus ou moins désirables, y est concentrée en des proportions inégalées, presque 2% de concentration sur la masse sèche. C'est énorme pour une molécule si puissante qui fait effet dès le premier milligramme ingéré. Mais, fait surprenant, en des doses plus faibles, elle serait très efficace pour soigner les tocs ou réduire les angoisses existentielles de certains malades en fin de vie. Sur une note plus gaie, le psilo, comme on l'appelle dans le milieu, ne s'arrête pas là. Il contient une autre molécule hallucinogène, la bêocystine. Moins puissante, mais surtout moins étudiée, on connaît mal son impact sur le mental, On sait seulement qu'elle a des effets à partir de 10 mg ingérés. Les effets de ce cocktail Molotov fongique sont très divers, allant du dérèglement de l'humeur à la tachycardie, en passant par les hallucinations. Les résultats sont très variés en fonction des personnes, de leur humeur initiale, de leur constitution psychologique, etc. Bien évidemment, la consommation, la cueillette ainsi que la culture de ces petits chapeaux sont interdits, même à Amsterdam, où ils étaient pourtant en vente libre dans les coffee shops jusqu'en 2008.
Mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le chant du psilocybe qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Des spores et des cèpes.
Vendredi 27 novembre, Radio Campus et ses radios partenaires présentent la Nuit européenne des chercheurs. Organisée à partir de 14 villes et campus de France, cette édition sera numérique et radiophonique. Cette année, sous la lanterne des petits secrets nocturnes, les chercheurs se confieront à vous en images et en sons pour vous faire part de leur démarche. Entre intuition créative et respect des protocoles, particularités de leur métier et subtilités qu'ils peuvent rencontrer dans leurs travaux. La Nuit européenne des chercheurs, c'est le 27 novembre, en direct et en podcast, sur le www.nuitdeschercheurs-france.eu et sur radiocampus.fr.
Étale ta science.
3, 2, 1, 0, all engine running.
Le podcast de la recherche culturelle et des sciences participatives. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Étale ta science, le podcast de la recherche culturelle et des sciences participatives. Au sommaire de ce cinquième épisode, nous allons vous parler d'archéologie et de sciences participatives avec Jean-Pierre Girard. Il est chercheur au sein du laboratoire Archéorient à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée qui est lié à l'Université de Lyon. Il a développé plusieurs projets en lien avec les sciences participatives. L'entretien a été réalisé par téléphone depuis les studios de Radio Campus Paris. Pour toujours vous surprendre à un moment où vous ne l'attendez pas, Elliot Janon vous a préparé un petit sketch humoristique. En fin d'épisode, Léo Tessier observe des cratères sur des images satellites. Mais tout de suite, on retrouve Élodie Hervier qui a suivi Hélène qui recueille des empreintes de hérissons. Bienvenue dans Étale ta science.
Chez moi, je sais qu'il passe sous le portail. Il passe par l'entrée. C'est incroyable parce qu'il ne faut pas beaucoup de place pour passer. En fait. Donc là, c'est un vrai coin hérisson ici. On est à l'arrière de ma maison, là. Et on a toute une bande de plantes.
Ça, les gens.
Eh bien... Ah, alors, ça c'est mignon. Donc là, on a une bête qui est passée, mais c'est pas un hérisson. C'est ce qu'on appelle des micro-mammifères. Vous voyez, toutes petites empreintes là. C'est ou une souris, ou une musaraigne, ou un... Vous voyez, on met des croquettes, ça c'est des croquettes chats au milieu. Ici, on a deux bandes qui sont avec du charbon végétal qui servent à récupérer, comme sur mes doigts, l'empreinte. Voilà. Et donc ça, on prélève ces feuilles-là, et après, on les prend en photo, et on va télécharger ça sur le site de la LPO de Mission Hérisson. Dès que c'est plus ultra super entretenu, découpé, dégagé, défriché, on a plein de cachettes à hérissons. Il y a une petite propriété qui donne sur les champs. Et donc, il y a pas mal de choses pour se cacher quand on a hérisson. Et donc là, moi, j'ai tout mon petit matériel. Donc, j'ai du charbon actif qui est mélangé avec de l'huile pour pouvoir l'étaler ici. Ça, c'est des petites mains de hérisson. Voilà. On va dire qu'elle mesure à peu près 2,5 cm, celui-là. On dirait vraiment une petite paume de main avec les premières phalanges des doigts d'appuyer. Et puis, ces quatre petits doigts autour, là aussi, on dirait que quelqu'un a mis ses... Celle-là est mieux, il y a les 5 doigts ici. Voilà, la paume, 1, 2, 3, 4, 5. Ça a démarré le jour où j'ai trouvé un hérisson dans mon jardin, voilà. J'ai trouvé la bestiole assez rigolote. Et puis, je suis forcément tombée donc sur des groupes Facebook et puis sur la LPO, sur Mission Hérisson. Et je me suis dit, allons-y.
Étale ta science.
Étale ta science vous invite dans ce 5e épisode à découvrir les sciences participatives en lien avec l'archéologie. Pour en parler, nous recevons par téléphone Jean-Pierre Girard. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Girard, vous êtes chercheur au sein du laboratoire Archéorient à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Celle-ci est liée à l'Université de Lyon et vous cherchez à mettre en lien l'archéologie, le numérique et la société. Vous avez développé plusieurs projets en lien avec les sciences participatives et nous allons en aborder certains dans cet épisode. Lorsque je vous ai contacté par mail, vous m'avez dit que vos recherches étaient liées à l'archéologie associée au numérique et que vous n'étiez pas du tout un archéologue de terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ?
Alors la différence, elle est à la fois dans l'approche scientifique qui est abordée et dans ma personne, puisque je ne suis pas quelqu'un qui a fait une formation ou des études en archéologie. Et je ne suis pas non plus quelqu'un qui suit enseignant-chercheur en archéo ou chargé de recherche en archéologie au CNRS. Mon travail, c'est plutôt d'être capable de co-construire avec des archéologues de terrain, d'être capable de co-construire avec eux des problématiques scientifiques qui intègrent le numérique, non pas seulement sous la forme de bases de données informatiques ou de choses comme ça, mais de tout ce que le développement exponentielle de ce qu'on appelle d'une façon un peu globale le numérique depuis une vingtaine d'années a permis, c'est-à-dire le fait qu'on ait des outils nomades comme les smartphones ou les tablettes, le fait qu'on ait des outils d'intelligence artificielle qui permettent de fouiller des données, enfin vous voyez, des choses aussi diverses que ça, qui dépassent de loin le fait de simplement de construire une base de données informatique.
Quel a été votre parcours, les études que vous avez suivies afin de devenir chercheur, est-ce que vous avez trouvé immédiatement votre voie professionnelle ou bien vous avez réalisé beaucoup de détours ?
J'ai réalisé beaucoup de détours. Pour que vous sachiez tout, j'ai un petit peu plus de 60 ans, donc j'ai déjà fait pas mal de tours et de détours dans ma vie professionnelle. Et je suis arrivé dans le monde de la recherche en archéologie il y a une dizaine d'années, donc de façon très récente. Par exemple, il s'est développé une bonne partie de ma vie professionnelle dans le monde de l'édition, qu'il s'agisse d'édition numérique ou d'édition de livres. Donc, dans un univers qui, sans être l'univers de la recherche, n'en est pas si éloigné que ça. L'édition de sciences humaines, essentiellement, patrimoine, etc. Et puis, j'ai même été pendant un peu moins de 10 ans chef d'entreprise dans ce domaine. Donc, le fait de faire de la recherche autour de l'archéologie et de participer, d'être intégré dans un laboratoire de recherche aujourd'hui, et une espèce de couronnement intellectuel d'une vie professionnelle qui a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, procédé par pas mal de détours.
Quel serait votre conseil à des étudiants qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de la recherche, étudiants ou pas étudiants d'ailleurs ?
La première réponse que je donnerais, c'est que le mot le plus important que vous avez prononcé, c'est aventure. Dans un double sens. Le premier, c'est que quand on fait de la recherche, on sait à peu près dans quelle direction on va, mais on ne sait pas à l'avance ce qu'on va trouver. Et donc c'est en ce sens qu'il y a un aspect aventure qui est vraiment très fort, c'est-à-dire qu'on va à la découverte de quelque chose qui par définition est caché au moment où on démarre. Donc le côté aventure est vraiment important. Il faut avoir envie de chercher, de décrypter, de scolter à des problèmes dont on ne connaît pas la solution à l'avance. Ça, c'est la première chose. Mais il y a un deuxième sens derrière aventure aussi, c'est que le monde de la recherche est loin d'être un monde tranquille, y compris d'un point de vue social. C'est très difficile, c'est un milieu, des procédures pour accéder au monde de la recherche sont des procédures extrêmement élitistes. Il faut être dans les meilleurs des meilleurs, et en ce sens, il y a une aventure aussi. C'est-à-dire qu'un étudiant qui veut faire de la recherche, il va falloir, donner beaucoup de soi-même pour y parvenir.
Vous avez travaillé notamment sur un simulateur qui s'appelle Truelle et Pixel. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de ce simulateur et dans quel but il a été créé ?
Le point de départ était de trouver un mode de médiation original et de son temps, en quelque sorte, pour parler de l'archéologie au public des musées ou à des publics qui soient professionnellement éloignés de l'archéologie tout en étant, comment dirais-je, intellectuellement intéressés, voire vraiment proches. Je ne l'ai pas fait tout seul, hein, loin de là. C'est, encore une fois, c'est un projet, c'est une équipe, c'est une co-construction, etc. Dans la construction d'un jeu vidéo, à la fois un scénario et puis, comment dirais-je, des outils technologiques qui permettaient de simuler une partie de ce processus qu'on appelle la fouille, donc pouvoir simuler de la 3D, quoi. C'est-à-dire rentrer dans la fouille concrète d'un terrain sur un écran. C'est une succession de prototypes qu'on a développés, qu'on a mis en test dans des musées, pour que n'importe qui, le public du musée, puisse effectivement s'essayer avec ces prototypes. C'est resté à l'état de prototype, ça n'a pas été développé comme des produits commerciaux, donc vous ne trouverez pas aujourd'hui un simulateur trouver les pixels sur une étagère de la FNAC. mais c'est pas juste resté une idée, on est allé jusqu'au proto, on est allé jusqu'à le mettre dans les mains de personnel de musée. Des gens l'ont eu en main, c'était un vrai outil. Et c'est par cet outil qu'on est arrivé petit à petit à l'idée d'aller plus loin jusqu'à la science participative. Parce que le principe de la simulation, c'était de dire aux gens, vous n'êtes pas seulement un acteur passif qui venait regarder une exposition dans un musée ou qui regardait un documentaire à la télé, on vous donne la possibilité, c'est le principe du jeu vidéo, d'agir, d'exécuter, de faire quelque chose. Donc cet apprentissage par le faire, cet apprentissage direct, l'idée était que ça soit une étape vers une transposition d'une vraie capacité à intervenir sur le terrain en complément d'équipes d'archéologie, qui puissent être reconnues par des chercheurs professionnels pour intégrer ces amateurs dans leurs équipes de travail, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain.
Un autre projet de science participative sur lequel vous continuez de travailler et pour lequel vous avez été financé et labellisé Service numérique innovant 2019 par le ministère de la Culture, c'est le projet Bulio, Bibract et moi. Ce que j'en ai compris, c'est qu'il s'agit de retranscrire le début des manuscrits de Jean-Jacques Bulio pour qu'un ordinateur puisse ensuite le faire tout seul et du coup les participants ensuite créent des annotations et augmentent les données fournies par Jean-Jacques Bulio.
C'est pas Jean-Jacques, c'est Jacques Gabriel qui est quelqu'un qui à l'époque où il a mené ses travaux était un pur amateur puisqu'il était négociant en vin à Autun, je crois, Autun ou Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Il a eu l'intuition que se trouvait au sommet du Mont Beuvray, la capitale d'un peuple gaulois dont parle abondamment César dans la guerre des Gaules, qui sont les Édouins, et dont la capitale gallo-romaine était Autun, mais il a eu l'intuition que la capitale préalable, avant la guerre des Gaules, était au sommet du Mont Beuvray. Et donc il a mené au Mont Beuvray de 1867 à 1895, je crois, quelque chose comme ça, à peu près 30 ans de fouilles. Et il a consigné, il a évidemment publié beaucoup de choses, mais il a aussi consigné au jour le jour, en quelque sorte, comme font encore aujourd'hui les archéologues, le quotidien de ses fouilles, en quelque sorte, dans des carnets. Donc on a à peu près aujourd'hui 600 à 700 pages de carnets de fouilles, écrits à la main par Jacques-Gabriel Bulio, et qui restitue le déroulé quotidien de sa fouille sur une trentaine d'années. Ces carnets, bien sûr, ont déjà été exploités par un certain nombre d'acteurs du monde scientifique depuis un siècle. Donc ils ont déjà été transcrits individuellement par un certain nombre de gens pour leurs propres travaux, mais ils n'avaient jamais été transcrits dans l'optique de les présenter au public, pour présenter à ce public, dans le cadre en particulier d'un musée qui est aujourd'hui implanté au pied du Mont Beuvray, qui s'appelle le musée de Bibract. Donc pour présenter au public la réalité d'un écrit archéologique du 19e. Donc c'est à ça qu'on s'est attaqué. Et on s'y est attaqué en associant deux aspects particuliers, d'une part de l'intelligence artificielle et d'autre part de l'intelligence humaine. C'est-à-dire c'est le moteur d'intelligence artificielle qui va être capable de lire le manuscrit de Jacques-Gabriel Bulio et de transcrire ce manuscrit comme on fait aujourd'hui ce qu'on appelle de l'OCR, c'est-à-dire la retranscription automatique de caractères. On prend un texte qui a été imprimé à la machine, et puis les ordinateurs sont aujourd'hui capables de lire ce texte et de le transformer en un document de traitement de texte. Un document numérique qui, lui, va être susceptible de traitement automatique. C'est ça l'intérêt du numérique. Mais sur le manuscrit, c'est beaucoup plus complexe. Donc on a un moteur d'intelligence artificielle qui sait faire ça, qui a été développé par des équipes européennes et qui est opéré aujourd'hui par une université autrichienne. Mais ce moteur, pour être efficace, il a besoin d'être entraîné. Entraîner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on lui fournisse un certain nombre de pages des carnets de bullio, des images des carnets de bullio, mais avec en regard de chacune de ces pages, le texte déjà transcrit en sous-format numérique, et cette transcription, elle est faite d'humains. Et c'est ça qui va servir de donner d'entraînement au moteur, qui fait qu'ensuite le moteur va être efficace.
Ces personnes qui travaillent dessus, ce n'est pas forcément des professionnels.
On a fait le pari de faire ce travail scientifique par des amateurs, de purs amateurs. On a organisé des ateliers d'animation dans lesquels on utilisait des mécaniques d'animation de groupe, etc., pour renforcer l'intérêt des gens, pour qu'ils fassent connaissance, pour les faire travailler ensemble, etc. Mais la formation à la transcription, c'est quelque chose de très ténu, minime et d'assez simple au fond. Parce que ce qui est important dans la transcription, même si on transcrit un carnet d'archéologue, c'est pas d'être soi-même un archéologue de haute volée, c'est tout simplement d'être capable de lire, d'être capable de reconnaître un mot plutôt qu'un autre, et d'être capable de se poser des questions quand on n'arrive pas à reconnaître. Et de s'interroger sur où est-ce qu'on peut trouver les moyens d'éclaircir le sens de ce mot. Est-ce qu'on va aller regarder dans un dictionnaire du 19e, dont beaucoup sont numérisés et disponibles en ligne aujourd'hui? Ou est-ce qu'on va comparer un mot d'une page à un mot d'une autre page? Parce que la lecture d'un mot précédent va nous permettre d'éclairer la compréhension de telle ou telle lettre dans un mot qu'on a du mal à comprendre, des choses comme ça. Et puis on va s'interroger aussi sur le sens général du texte et la façon dont les phrases sont construites pour essayer de se faire une idée de ce que peut être ce mot étrange qu'on peut avoir un peu de mal à lire à un moment donné. Et ce travail-là, d'une part, c'est d'abord une question de lecture, de concentration, de curiosité, de savoir trouver des points de référence. C'est aussi une question de travail collectif, de regard croisé.
Regardez, docteur, il s'agit d'une relique authentique inestimable. Il s'agit d'un sablé breton de l'Antiquité. Selon mes estimations, il daterait de 300 ou 400 ans après Jésus-Christ, ce qui explique cette couche de sel de 2 cm. Les bretons de l'époque étaient bien plus salés que les bretons d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, docteur?
Ouais, bah c'est un sablé en croûte de sel, quoi.
Oui, mais professeur, donc vous ne pouvez pas...
Oui, bon, si vous voulez, un sablé millénaire. Mais ça reste un sablé, oui ou non?
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Bah voilà, appelez un chat un chat. Ah là, bon allez, moi je me cache, j'ai la dalle.
Étale ta science.
De quelle manière est-ce que les sciences participatives transforment la recherche d'après vos observations et votre vécu?
Alors, c'est une question qui fait l'objet de pas mal de recherches, de pas mal de nouveaux projets depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, en particulier parce que le numérique permet d'instrumenter des groupes d'amateurs de façon beaucoup plus efficace que par le passé et permet de conserver le résultat de ce travail de groupe d'amateurs sous une forme elle-même nativement numérique, ce qui ouvre la possibilité de beaucoup d'autres traitements, etc. Donc le numérique a complètement démultiplié les possibilités de la science participative en général, hein, depuis une vingtaine d'années. Alors en archéologie, ça se combine avec quelque chose de propre à la discipline. Deux aspects. Un premier aspect qui est que nous avons énormément d'archives sous forme manuscrite, donc il y a vraiment un énorme besoin ne serait-ce que pour des raisons historiographiques, et parfois pour comprendre les recherches qui ont pu être menées dans le passé, parce qu'elles éclairent les recherches du présent. D'aller se colter avec du texte manuscrit et donc d'être capable d'en faire quelque chose, de le transformer d'une façon ou d'une autre en un jeu de données. Ça, c'est le premier aspect, qui n'est pas spécifique à l'archéologie, mais qui est assez prégnant en archéologie. Et puis le deuxième aspect très spécifique à l'archéologie, c'est qu'un terrain qui a été fouillé une fois ne peut plus jamais être fouillé.
Ça c'est législatif ou bien c'est un fait
C'est-à-dire qu'il y a... Ce qui intéresse les archéologues aujourd'hui, c'est pas seulement de découvrir des objets cachés dans la Terre. On est bien au-delà de ça depuis longtemps. Ce qui intéresse les archéologues, c'est de découvrir la trace d'une culture, essentiellement d'une culture matérielle. Et cette culture matérielle, elle n'est pas faite seulement d'objets. Elle est faite d'abord aussi de traces de construction. Elle est faite aussi et surtout du lien entre des objets, des traces de construction, des résidus organiques, comment dire, un certain nombre de choses qui sont de nature assez largement différente. C'est le lien qui est le plus intéressant. Or, quand vous creusez pour mettre au jour un certain nombre de vestiges, par définition, vous creusez, donc vous allez devoir descendre. Vous allez d'abord décaper les couches qui sont par définition les plus récentes, parce que la Terre fonctionne par accumulation. Puis au fur et à mesure que vous descendez, vous allez redescendre dans le temps. Une fois que vous avez tout décapé et que vous êtes arrivé au niveau encore plus ancien, les niveaux romains ou médiévaux, ils ont disparu. Vous les avez décapés. Gardez la trace de ce qui s'est fait, de ce qu'on a trouvé, et de comment on l'a trouvé. C'est un élément essentiel de ce métier qu'est l'archéologie, parce que l'expérience scientifique de l'archéologie, qui est la fouille, eh bien, on ne peut jamais la refaire. Jamais.
C'est ce qui complique parfois les sciences participatives, puisque il y a des chantiers participatifs parfois en archéologie, et j'imagine alors, que ça doit créer des conflits.
C'est un des aspects qui complique effectivement les sciences participatives, et c'est pour ça que dans les expériences avec des amateurs, pour ce qui nous concerne, on a commencé par des choses qui sont, sans danger, en quelque sorte, qui sont de la transcription de manuscrits. Parce que le geste spontané d'un amateur qui se dirait « Tiens, j'ai mon jardin, je sais pas, pour X raisons qu'à tel endroit, il y a 3 siècles, il s'élevait telle et telle chose, je vais aller creuser un trou dans mon jardin pour voir s'il y a quelque chose. » Ça peut faire surgir un objet, mais ça va surtout
détruire
l'organisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, soit on en garde trace, soit on n'en garde pas trace. Si on n'en garde pas trace, c'est une connaissance qui est perdue.
Mais c'est intéressant parce qu'à l'époque, il y a très longtemps, les fouilles archéologiques, c'était purement amateur. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été retrouvées et qui sont au muséum par des amateurs.
Absolument. Comme toutes les sciences, l'archéologie a d'abord été une science amateur. Et puis, petit à petit, elle s'est professionnalisée. Elle s'est professionnalisée plus tôt dans le courant du XXe siècle, pas forcément plus tard que les autres disciplines d'ailleurs, mais disons dans le courant du XXe siècle. Aujourd'hui, elle est très structurée d'un point de vue professionnel, et encore plus depuis qu'en France, on a une réglementation qui s'appelle la réglementation sur l'archéologie préventive, qui permet de multiplier les fouilles scientifiques sur des sites qui, par la suite, sont susceptibles d'être détruits par des aménagements. Hein, ce sont les choses classiques quand on construit une autoroute, quand on construit un gros immeuble, etc. Quand on, d'une façon ou d'une autre, on s'attaque à un terrain pour construire un aménagement. L'archéologie préventive est là, quand c'est nécessaire, pour garder trace de ce qui va être détruit par la construction de l'aménagement ou de l'équipement. Et de ce fait, une très très grande quantité de fouilles sont réalisées aujourd'hui en France, grâce à cela. Et ça a vraiment révolutionné la vision de l'histoire de notre pays sur en particulier les périodes tardo-antiques, médiévales, etc., sur lesquelles on avait des visions qui étaient purement littéraires et pour une bonne part erronées. Donc on a cette archéologie qui s'est professionnalisée et qui a abouti de facto à exclure les amateurs du processus, ce qui aujourd'hui est regretté par un certain nombre de chercheurs archéologues professionnels, et on cherche les moyens de réintégrer ces amateurs dans le processus, comme dans un certain nombre d'autres disciplines, on cherche à parfois réconcilier la science et la société, et donc retrouver un pont, une co-construction entre le monde académique et une société qui, d'une façon ou d'une autre, est impactée par les résultats du monde académique, et qui de plus en plus souhaite être partie prenante de la définition des objectifs et de la réalisation de ces travaux.
Ce podcast est diffusé à l'occasion de la Nuit européenne des chercheurs. On a une question que l'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être un ou une chercheur ?
C'est avoir envie de se poser des questions sur son sujet d'étude et avoir envie de trouver des réponses sans a priori sur la réponse qu'on veut trouver. C'est-à-dire à partir des questions qu'on se pose, d'être capable de définir un mode de travail, un modus operandi, une voie de recherche qui ne préjuge pas de la réponse.
Merci Jean-Pierre Girard d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous n'avons pas pu aborder tous vos projets en lien avec les sciences participatives. Mais pour les auditeurs et les auditrices qui souhaitent approfondir le sujet, vous pourrez retrouver certains liens dans l'article associé au podcast. Et maintenant, Léo Tessier observe pour votre plus grand plaisir des cratères.
Étale ta science.
J'ai testé pour vous Vigicrater, le site qui part à l'assaut des cratères de météorites sur Terre. Je me rends donc sur le site de Vigicrater, où je suis invité à regarder des images topographiques. Ce sont des images satellites, en noir et blanc, qui font ressortir les reliefs. Je dois donc y repérer des formes circulaires et creuses. Bon, je ne parle pas des points noirs que j'ai sur le visage, mais bien de cratères. Alors, je plisse les yeux, je me colle à l'écran, j'ausculte chaque pixel et... bingo! Je trouve quelque chose de rond qui n'est pas une bosse, je marque la structure et c'est envoyé. Mon observation va ensuite être soumise à d'autres participants. Et oui, Vigicrater est collaboratif. Ils devront dire si j'ai un œil de lynx ou si au contraire je suis complètement miro. Hein, pas cher, le test ophtalmo. Mais pourquoi chercher de nouveaux cratères? Alors si on compte des milliers de cratères sur la Lune ou Mars, ils se font beaucoup plus discrets sur Terre. La raison? Une géologie active qui modifie sans cesse la surface de notre planète. Chercher ces structures est donc un premier pas pour les scientifiques avant de se rendre sur le terrain. Parce qu'un cratère donne des informations sur la météorite qui l'a créée. Météorite qui nous en dira plus sur l'astéroïde dont elle provient, qui lui-même nous informera sur l'origine de notre système solaire et de l'univers. Bon allez, je vous laisse, hein, maintenant j'ai une crise existentielle à gérer. En attendant, la chasse au cratère est ouverte.
Étale ta science.
Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute, merci à Jean-Pierre Girard. Ils ont participé à ce podcast Léo Tessier, Élodie Hervier, Elliot Janon et moi, c'est Anna Péan. Ce podcast a été réalisé en lien avec Radio Campus France et grâce au soutien du ministère de la Culture.